Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
L'Anthropode quoi ?
L'Anthropodcast.
Bonjour et bienvenue sur Anthro Story. J'ai quelques petites choses à vous dire avant de lancer l'interview de Luc Doyon qui va nous parler du superbe jeu Far Cry Primal. Il est anthropologue et a travaillé sur le jeu, il a été consultant. Et il va nous raconter plein de trucs intéressants sur les mammouths et surtout sur les gens qui vivaient il y a 10 000 ans, 12 000 ans de chez nous à peu près. Bref, un interview vraiment super génial, mais avant tout, j'ai une ou deux choses à vous dire. Déjà, je vous ai dit la dernière fois qu'on avait changé de nom pour Anthro Story et je vous avais dit que cette fois-ci, je vous expliquerai pourquoi. Eh bien, je le ferai à la fin de l'épisode, histoire de pas embêter ceux qui s'en foutent complètement. Et donc, pour les 2-3 que ça intéresse, il faudra attendre la fin de cette interview. Mais vous inquiétez pas, il est très intéressant. Ensuite, et je me permets de le dire parce que ça fait 8 mois que je vous en ai pas parlé, nous sommes sur Patreon. Patreon, c'est quoi ? C'est un moyen de financement pour les projets comme les nôtres ou les projets un peu plus grands qui permettent aux auditeurs ou aux gens qui regardent ce qu'on fait, ça peut être sur YouTube aussi, de donner quelques dollars par mois, voire même un dollar par mois pour aider ces projets-là, pour financer tout ce qu'on a à financer de notre côté, les voyages, le matériel, l'hébergement, etc., etc. Si vous avez envie de participer à ce projet-là et de nous aider un tout petit peu, c'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, espace entre podcasts et vous allez tomber sur notre page qui explique tout. Il y a même une petite vidéo qui explique le tout. Deuxième manière de nous aider si ça vous branche, en l'occurrence dans cet épisode on va parler de livres, on a aussi déjà souvent parlé de livres sur Anthro Story et j'espère qu'on vous a poussé à acheter des livres d'Anthro Story. Eh bien si vous allez sur anthrostory.com, vous avez un widget Amazon qui vous permet en cliquant dessus, à condition que vous n'avez pas votre adblock qui est mis, moi j'ai fait l'erreur, ça ne fonctionne pas s'il y a l'adblock, vous allez sur Amazon, vous pouvez commander ces livres-là. À vous, ça vous change rien, mais nous, on reçoit à peu près 8% de commission. Ça va pas nous faire devenir riches, mais bon, pourquoi pas, on va s'en servir quand même. Donc surtout, si vous achetez des livres grâce à nous, n'hésitez pas à passer sur anthrostory.com et à cliquer sur le lien Amazon. Troisième et dernière chose, le 22 mai, je crois, ce sera l'anniversaire des 4 ans de VoyageCast et des 2 ans d'Anthropodcast / Anthrostory. Pour fêter l'événement, on va pas se voir en vrai parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent de tous voir en vrai, mais on sera devant une table virtuelle. Après tout, on est sur Internet, donc ça convient à peu près. On boira une bière à écran interposé. Et pour ce faire, eh bien, il y aura Julie, que vous avez déjà entendue sur Anthro Story, une fois juste, et pas beaucoup, mais qui travaille avec moi, notamment pour tout ce qui se fait en backstage, écrire des mails, etc., qui nous aide de ce point de vue-là, à faire la relecture, etc., et avec qui on va commencer un nouveau format. Alors c'est encore en test, mais qui devrait vous donner des news sur l'anthropologie chaque mois. Elle sera donc là avec moi et vous l'entendrez enfin parler, parce que c'est dommage de la voir seulement dans les backstage. Il y aura Mister Nose qui a participé au premier et seul pour l'instant Anthropo Games. On verra si on en refait d'autres, mais comme il était là avec nous cette année, il est chaleureusement invité. Et puis il y aura une invitée surprise qui n'est pas Anne-Laure parce que ça serait pas une surprise. Une invitée surprise qui viendra sur Anthro Story, que je suis content de recevoir. On a déjà commencé à travailler ensemble pour quelque chose que vous devriez entendre / voir en fin d'année, si tout va bien. Mais en tout cas, elle sera là pour nous expliquer un peu tout ça et on va vous raconter tout ça. Si vous avez des questions, et c'est ça le plus important, à nous poser, que ce soit sur l'anthropologie, à condition que ce soit pas forcément de nous résumer la pensée sauvage en 5 minutes, mais que ce soit d'autres questions, des questions sur des épisodes qu'on a déjà tournés, sur des choses que vous aimeriez voir, sur des questions sur le podcast en lui-même, sur YouTube, sur je sais pas quoi, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra bien entendu pas à tout, parce que si je dis on répond à tout, va y avoir des questions très très connes quand on n'a pas envie de répondre. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Pour poser vos questions, c'est très simple. Vous écrivez un mail à contact@anthrostory.com ou alors vous allez sur notre site internet anthrostory.com. Il y a un onglet contact d'où vous pouvez nous écrire. Ça arrive directement dans notre boîte aux lettres. Ou alors vous passez par Twitter @anthropodcast où vous cherchez Anthrostory. C'est la même chose. Vous arrivez directement chez nous. Ou alors, vous passez par notre page Facebook, vous avez à peu près tous les moyens du monde pour nous contacter. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir et on parlera aussi du futur d'Anthro Story, parce que oui, c'est l'anniversaire des 2 ans, mais c'est pas la fin. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Pour la suite, c'est l'interview de Luc qui nous parle de Far Cry Primal. C'est tout de suite, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Anthro Story, je suis avec Luc Doyon. Salut Luc.
Salut.
Alors du coup, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Doyon ou si ça se dit
Non, c'est
autrement.
Doyon.
Doyon, mes excuses.
Pas de souci, j'ai
Ça fait...
l'habitude.
Ok, oui, bon, alors ça va. Je suis très content de te recevoir sur AnthroStory justement parce que tu as participé à un grand jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps à l'heure où on enregistre, qui s'appelle Far Cry Primal, que je vous invite à découvrir si vous écoutez ça en audio, à aller sur la chaîne YouTube et à aller voir à quoi il ressemble. C'est un jeu qui se passe, ben, tu nous diras après exactement quand il se passe parce que c'est intéressant, mais qui se passe, on va dire, pour les amateurs dans la préhistoire. Et justement, tu es anthropologue. Alors, tu es anthropologue à Montréal, sauf erreur, même si maintenant tu es à Lyon.
À Bordeaux.
À Bordeaux. Je confonds tout, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais c'est quand même juste que tu es de Montréal.
Je suis de Montréal à la base.
Ah, ça va, ça s'entend pas beaucoup, en fait.
Ça aussi, on me le dit beaucoup.
C'est nul, c'est dommage, ça perd un petit peu d'exotisme. Non, mais on va.
Voici.
Non, super sympa. Alors, Montréal, justement, où il y a Ubisoft, donc je ne sais pas si ça a à voir avec ta participation sur Primal, mais avant, peut-être, on va te demander qu'est-ce que c'est ta spécialisation, du coup, parce que je crois que pour les francophones, ça va sembler bizarre de t'appeler anthropologue par rapport à ce que tu es en train d'étudier.
Tout à fait. En fait, en Amérique du Nord, l'anthropologie, c'est une discipline qui en regroupe quatre, généralement, selon le modèle boissien. Alors, on a l'anthropologie typique de ce qui est connu en France, qui est plutôt l'anthropologie biologique, mais ça regroupe aussi l'ethnologie culturelle, l'ethnolinguistique et la préhistoire, en fait, l'archéologie dans son sens large. Alors, à l'Université de Montréal, il y a les quatre sous-disciplines qui sont regroupées sous le terme anthropologie. Mais moi, je me suis spécialisé plus en archéologie et principalement l'archéologie préhistorique, plus spécifiquement, en fait, l'arrivée de Sapiens en Europe et les technologies de chasse qu'il utilise. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je suis arrivé sur Bordeaux. C'est pour y terminer ma thèse de doctorat qui porte justement sur des pointes et en fait, j'essaie de reconstituer les réseaux des premiers sapiens qui arrivent en Europe à partir de la morphométrie des pointes. Donc, voilà.
Quelque chose de très très spécifique. D'ailleurs, je crois que j'ai lu un des articles où tu avais participé et c'est assez fou. On n'aura pas forcément le temps d'en parler là, mais par rapport à la taille, si j'utilise bien les termes, tu me corriges, hein, mais on peut déterminer à peu près le moment où certains outils ont été faits ou comment ils ont été fabriqués. Et en fait, il y a tellement peu de matériel que il suffit qu'il y ait une nouvelle technique à utiliser pour que ça remette en question. Des milliers d'histoires, d'années d'histoire humaine ou des flots d'humains justement par où ils sont arrivés. Et du coup, ça rend cette époque absolument fascinante parce qu'on a l'impression qu'à chaque chose qu'on découvre, on peut réécrire l'histoire carrément. Je sais pas si je me trompe ou si je vais trop loin,
Alors,
mais...
tu te trompes pas, c'est pile poil exactement ça. C'est en fait, en effet, il y a des techniques ou des méthodes de taille ou de fabrication d'outils, dans son sens plus général, qui sont surtout rattachées à des périodes chronologiquement bien définies. Par contre, justement, toute cette définition des périodes est basée sur des a priori ou des critères de définition qui sont sans cesse remis en question. C'est le but de la science en même temps.
Exactement.
Du coup, de voir une nouvelle technique, une nouvelle approche, une nouvelle matière première, voilà, ça remet en cause un peu les fondements de l'histoire qu'on tente de raconter au final. Et puis, bah, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en même temps, il faut pas non plus se camper. On ne peut pas, disons, savoir exactement ce qui s'est passé. Et justement, l'étude approfondie avec des méthodes nouvelles, des regards nouveaux, nous permettent de mettre plus de chair autour de cet os.
Je trouve ça assez fascinant en tout cas. Alors du coup, on va basculer sur Primal. Alors
Ouais.
peut-être qu'un certain nombre d'anthropologues qui sont peut-être aussi fans de jeux vidéo, je sais pas, vont se dire mais travailler sur un jeu vidéo comme ça, c'est génial. Mais comment il faut faire? On signe où? Alors est-ce que tu as reçu un téléphone de Monsieur Ubisoft Montréal? Bonjour, on a besoin de vous pour faire un jeu vidéo. Comment ça s'est passé?
Bah, j'ai reçu un courriel de Monsieur Ubisoft Montréal pour
Ah.
me dire bah tu es intéressé? Si oui, ben bah, il faudra venir nous rencontrer. et signer une clause de non-divulgation, naturellement, c'est bien évident. Et ensuite, ben, ils m'ont présenté le projet dans ses grandes lignes et m'ont demandé en fait si j'étais intéressé à les aider pour un aspect qui était quand même assez particulier. C'était surtout de regarder la culture matérielle et les aspects scientifiques derrière le jeu. Bon, c'est un jeu, hein, c'est pas un
C'est pas une
article.
reproduction fidèle, absolue
Non,
de ce moment-là.
non, et il faut pas prétendre non plus que c'en est une. Il y a beaucoup de fantastique et justement, bah, il faut essayer de pallier, ou en fait de jongler justement entre le désir d'y mettre le plus de scientifique possible et l'importance pour un jeu vidéo de rendre ça intéressant pour le joueur. Donc voilà, c'était un peu le terrain sur lequel je devais danser.
Ouais, c'est intéressant, hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers des jeux vidéo, Ubisoft est quand même assez habitué à ce genre de choses, par exemple avec la série Assassin's Creed, qui se passe à des époques différentes, beaucoup plus récentes, hein, mais où ils essayent aussi, alors pas d'être fidèles dans l'histoire en elle-même du jeu, parce que comme tu le dis, il faut un gameplay, il faut que le joueur soit intéressé à jouer, mais par contre, au niveau de la sensation de l'époque, on peut dire, les historiens disent, ok, c'est pas exactement juste. Mais globalement, ça reste une des meilleures expériences. Si vous avez par exemple envie de jouer dans celui qui se passait à Rome, je ne me rappelle plus lequel, maintenant je les ai fait. Je ne me rappelle plus lequel. Enfin bref.
C'était. Oui,
Bon, il
je.
y en a un qui se passe à Rome,
Oui,
et c'est vrai
voilà.
que les historiens diront c'est pas exactement Rome comme c'était parce que ça reste un jeu vidéo, mais en attendant, ça reste une des meilleures expériences de marcher dans les rues de Rome à cette époque-là qu'on n'ait jamais faite. Et j'ai lu plusieurs articles de blog d'anthropologues, justement, surtout américains, qui disaient, ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait exact, mais quand même, c'est la première fois que j'ai l'impression de me balader à ce moment-là. Alors, je sais pas si
Ouais.
toi, tu as eu cette même impression. Est-ce que toi, tu es content un petit peu du truc? Tu dis, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, on chevauchait pas des mammouths à l'époque, mais
Oui,
franchement, la sensation est quand même assez vraie, quoi.
bah, y a tous ces aspects dans le gameplay, justement, où on doit collecter certaines plantes pour augmenter son énergie ou se guérir. Voilà, c'est des trucs qui, en fait, ajoutent une profondeur au jeu et j'ai trouvé que c'était très, très bien rendu. C'est pas que de la chasse. Bon, il y a des affrontements entre les groupes, cet aspect
J'aurais une
de la
question là-dessus après, justement.
préhistoire. Bon, on en reparlera. Mais alors, voilà, il fallait rendre le jeu intéressant, mais il y a quand même, ils ont pris des aspects dans la préhistoire qui vraiment apportent une dimension qui se rapproche le plus fidèlement dans les contraintes d'un jeu vidéo d'une réalité qui peut être vécue. Voilà.
C'est l'avantage d'un jeu vidéo, on va dire, même si ça reste pas très vrai. Alors après, je me demande toujours qu'est-ce qui se passerait si une bande d'anthropologues se mettait à avoir exactement les mêmes outils que ces créateurs de jeux vidéo pour nous créer un environnement sans justement forcément la contrainte du gameplay. Et peut-être que ça va devenir rapidement dans les musées, on pense, enfin les très grands musées qui pourront se permettre de faire la réalité augmentée, etc. Parce que ça reste un outil extraordinaire pour s'immerger comme ça en quelques minutes dans un endroit qu'on ne verra jamais, à moins
Oui.
qu'on fabrique une machine à remonter le temps, mais c'est pas près d'arriver, on va dire.
Un petit peu difficile aussi.
Mais
Il y a des contraintes physiques qui nous en empêcheront, je crois.
voilà, je pense que c'est plus facile de le faire en VR. Donc je me demande toujours qu'est-ce qui se passerait si on te donnait le plein pouvoir avec les mêmes outils pour faire quelque chose de ressemblant, en fait, beaucoup plus.
Eh ben, je t'avoue que je ne saurais pas comment m'en servir. Honnêtement, Ubisoft a. Et puis, c'est ça qui est intéressant de la collaboration, c'est qu'ils ont un imaginaire des capacités qui dépassent en fait l'entendement. C'est une équipe qui est énorme qui travaille sur les jeux vidéo. Il faut se dire, il y a plein de cerveaux au même moment avec chacun leur propre expérience, leur propre perception qui arrive et qui sortent un truc qui est fantastique. Avoir une bande d'anthropologues, je ne sais pas s'ils se battraient pas sur la réalité, en fait, sur la réalité du fait, quoi, sur justement leur sur les théories qu'ils mettent de l'avant. Donc, je ne sais pas si ce serait aussi intéressant. Non, mais c'est à la blague. Mais quand même, en termes muséal, oui, en effet, ce serait génial. Mais en même temps, si on veut parler sur quelques minutes, c'est des réalités qui devraient être vécues sur des jours, selon moi, pour rendre ça franchement, pour pouvoir s'y immerger. Ce serait plus intéressant sur une période de temps qui est un peu plus longue, en fait, si on avait la capacité de le faire en VR.
Ouais, ça, c'est une idée intéressante, hein, mais écoute, on va bien faire, pas tout le monde, mais il y a bien des gens qui s'amusent à reproduire des choses médiévales, qui vont dans des châteaux, etc., et qui se permettent de passer justement 2, 3 jours comme au médiéval, avec bien sûr les contraintes d'aujourd'hui, genre on peut pas tuer des gens, mais mais pourquoi pas, c'est vrai, et en VR ce serait peut-être plus faisable, on va dire, ça c'est
Tout
pourquoi
à
pas, hein.
fait. Ouais. Ce
Pourquoi
serait
pas?
une bonne expérience, au lieu de la diète paléo, ce serait le week-end paléo, ce serait drôle.
Je serais nettement plus fan de ça, quoi. Quoi qu'il mange beaucoup
Moi
de
aussi.
viande, le diète paléo, c'est pas mal, quoi. Et alors, au point de vue de ta participation, vraiment, alors je sais pas, est-ce que les gars sont venus te dire, ben voilà, on doit faire une lance, mais comment ça se faisait une lance au paléolithique, quels matériaux on prenait, quelle longueur ça avait, à quelle distance on pouvait les lancer, enfin, co comment ça s'est passé vraiment avec eux à ces
Avec eux,
moments-là?
alors à ces moments-là, il y avait différentes équipes que je rencontrais. Donc il y avait le son, les artistes, le screenplay et le directeur. C'est surtout avec les personnes avec lesquelles j'ai interagi. Et ils me présentaient en fait leur projet ou l'état d'avancement du projet. Et moi, j'identifiais en fait. Où j'identifiais certains trucs qui devaient être précisés, où eux, ils venaient carrément avec des questions, mais très bien définies. Donc, justement, bon, en termes de culture matérielle, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on peut faire? En termes de situation historique, en fait, où est-ce qu'on va situer cette histoire? Parce que c'est quand même une dystopie où on regroupe 3 périodes préhistoriques en un seul jeu, pour donner justement une perspective d'évolution quand même assez rapide. Justement, comment en fait, comment conjuguer ce désir de donner une perspective évolutive avec 3 tribus qui sont différentes, des environnements qui sont changeants, et où est-ce qu'on pourrait situer ça, disons, sur le globe terrestre? Donc, ça, c'est plutôt situé dans ce qui pourrait ressembler bizarrement aux Carpates ou le bassin carpatien.
Fallait des montagnes, ouais.
Il fallait des montagnes, il fallait des cours d'eau, il fallait que ce soit quand même assez proche du Moyen-Orient pour l'arrivée de l'agriculture, quand même des tribus mésolithiques. Donc ce côté-là est, disons, près de la réalité préhistorique. Donc voilà, donc c'est un peu les questions qui m'ont posé. Aussi en termes artistiques, bon ben, qu'est-ce qu'on utilise pour l'emmanchement des lances? Est-ce que les pierres, la méthode de tailler les pierres était adéquate? Voilà, l'habillement, qu'est-ce qu'on connaît sur l'habillement des préhistoriques? Donc tout ça, ça a été un peu ce à quoi ce dont on m'a demandé, en fait.
Hey, c'est des questions complexes justement parce qu'on le disait avant, il n'y a pas énormément de vestiges quand même. Par exemple, je crois qu'il y a un article qui parlait des maisons, enfin, ouais, mais qui ressemblent pas à des maisons de maintenant, bien entendu, hein, mais des abris qui étaient construits. Alors comment est-ce qu'on construisait? On n'a pas énormément de matériel à ce niveau-là. Il faut quand même justement là utiliser son imagination et enfin je sais parce que ça c'est hyper compliqué parce qu'on passe d'un on part d'un truc qui n'existe pas vraiment, quoi.
Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un problème de conservation en archéologie. Alors, la pierre, voilà, c'est ce qu'on retrouve le plus. Ça compose 95%, disons, du registre archéologique. Mais lorsqu'on est dans une situation où on a des conditions de conservation excellentes, on se rend compte que la pierre, en fait, ne compte pour à peu près, ou du moins pas tellement plus que 5% du registre archéologique.
Ah
Alors, c'est
ouais.
95% qu'on doit découvrir par des moyens un peu détournés. Donc, il y a quand même une réalité physique, c'est que s'il y a quelque chose, disons dans des états de conservation adéquats, s'il y avait une structure organique, ça laissera des traces. Et on retrouve des structures d'habitation qui datent quand même de 20, 27 000 ans avant le présent, pour la période gravettienne. On retrouve ça autant en Europe occidentale qu'en Europe centrale. Donc, ces plans de vestiges ont souvent été utilisés pour refaire, en fait, proposer des reconstitutions. Et il y a aussi des cas exceptionnels, surtout en Europe centrale, par exemple Mazerich, où on a retrouvé des amoncellements de défenses et d'ossements de mammouth qui, en les étudiant de très près, nous ont permis de proposer en fait des cabanes en os de mammouth. Donc justement, ça a été un des trucs que j'ai proposé, justement, de récupérer des os, des défenses. Pour ériger des structures d'habitation. Plus on se rapproche des périodes contemporaines, plus les vestiges sont présents, visibles, et plus il est facile justement de proposer des reconstitutions. Donc quand on parle des premiers en fait agriculteurs horticulteurs pastoralistes, ben c'est plus simple en fait de leur proposer des schémas d'habitation ou des structures d'habitation parce que les traces sont plus présentes en fait.
Ok.
Voilà, ça a été un peu.
Ah, c'est super intéressant, mais donc, du coup, les maisons du jeu, alors on saura probablement jamais si c'était comme ça, mais c'est pas forcément si fantaisiste que ça en réalité, du coup.
Voilà. Voilà. Ils utilisent des matériaux qui étaient disponibles. Et puis ça a été vraiment le truc que j'ai tenté de mettre de l'avant. C'est n'essayez pas de construire des briques au paléolithique. Voilà, on utilise du bois, on utilise des peaux. Donc il fallait penser avec ces contraintes de matériaux à des structures qui auraient pu être possibles. Bon, naturellement, il y a une partie fantaisiste.
Oui.
On imagine bien que des cercles de pierre avec quelques pieux et des pots tendus auraient pu suffire en fait
Pour un abri, ouais.
constituer un abri. Mais bon, il y a des structures en effet qui sont un peu plus fantaisistes et puis c'est très bien comme ça. Moi, je trouve
Ah
ça
oui, ça
quand
reste
même
un jeu.
rigolo. Et voilà, exactement.
Alors, du coup, je me pose la question par rapport à la chasse au mammouth, par exemple, hein, qu'on voit au début du jeu, par exemple. Hein, vous l'avez déjà vu si vous regardez la vidéo. Parce qu'il n'y a pas de bouquin de chasse de l'époque, quoi. Il n'y a pas de vidéo chasse et pêche de l'époque non plus. Donc, est-ce qu'on fait la même chose qu'avec les maisons? Finalement, on se dit, bon, si tu as 20 gars devant toi qui ont tels outils pour tuer un mammouth, on suppose qu'on ferait comme ça, quoi. Ou
Bah,
est-ce que c'est plus précis que ça?
il y a deux disons sources d'indices en fait qu'on utilise en archéologie pour ça, pour reconstruire cette partie du mode de vie. La première source, c'est les vestiges. Donc, on retrouve des os qui portent des traces, on retrouve des outils, dont certains des armes qui portent, disons, encore des traces de résine d'emmanchement. Donc, à partir de ça, on est quand même capable de recréer une certaine partie du mode de vie.
OK.
Maintenant, quand on va directement dans comment la chasse était faite, eh bien, on a quand même la chance d'avoir une littérature riche sur les récits des voyageurs et même des explorateurs ou encore de scientifiques, même au début, même à la moitié du XXe siècle, qui sont allés visiter des peuplades qui utilisaient des moyens plutôt traditionnels. Et ça nous a fourni en fait des modèles qui peuvent être transposés aux périodes préhistoriques.
OK.
Qu'est-ce que l'on retrouve dans ces modèles-là? C'est souvent des chasses par battue, par exemple, la direction de troupeaux vers des obstacles ou des
Des pièges.
précipices, des pièges. Et donc tout ça nous a permis de construire quand même une série de modèles comportementaux très riches, hein, qui nous permettent de proposer, lorsque l'on fait des comparaisons avec le milieu environnemental, le type de bête, la capacité de, en fait, le comportement aussi de ces bêtes, de proposer des modes de vie, en fait, et des modes de chasse. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, en regardant et d'une part les vestiges archéologiques et ce que nous lèguent, en fait, les peuplades qui utilisent ou qui vivent selon des moyens traditionnels.
Ouais, du coup, on est quand même pas si loin de la réalité que ça, finalement, en fait. Ouais,
On s'en rapproche.
on s'en rapproche, voilà, disons, c'est intéressant. Alors, il y a une question, tu as évoqué le terme des guerres. Alors, évidemment, puisque c'est un jeu vidéo et que c'est Far Cry, pour ceux qui connaissent pas, hein, le dernier était Akirat, qui est d'ailleurs un jeu que j'aime beaucoup, qui est vraiment magnifique, plutôt dans l'Himalaya actuel, on va dire. Là, on a trois tribus, une qui est restée un petit peu coincée à la période des glaces, donc qui est un petit peu,
Brut.
ouais, brute, voilà. C'est des vrais, quoi. Et une autre qui est un petit peu plus normale, on va dire, au niveau du temps. Et puis une tribu, justement, qui vient de Mésopotamie, qui, elle, est plus. Alors, je déteste utiliser ce terme d'évoluer. Je sais pas, qu'est-ce que tu utiliserais, toi, pour le coup, parce que. Ouais.
Bah, faute de meilleurs termes, il faut
Faute de
utiliser ce
meilleurs
qu'on
termes, on va
a.
utiliser celui-là, on va dire. Et voilà, qui ont déjà une religion plus établie, on va dire, qui ont l'air d'avoir des coutumes plus établies, une langue aussi plus établie, un petit peu
Disons
plus.
une organisation
Voilà.
sociale plus complexe.
Voilà, exactement, ce qui leur permet aussi d'avoir des outils plus complexes, etc. Alors, la question que je me posais, c'est. Bon, alors, est-ce que déjà c'est possible qu'il y ait des tribus qui aient autant de différences technologiques, on va dire, qui se rencontrent à l'époque.
Alors, autant de différences, je ne sais pas si on prend vraiment de la première à la troisième,
Oui, voilà, disons entre la
c'est.
première et la troisième, est-ce que c'est possible qu'il y a
C'est
des poches stagnantes, je sais pas comment
bah,
dire ça
c'est
vraiment, mais.
difficile parce que bon, on peut imaginer que en fait justement c'est un peu le problème avec le en fait de conjugaison entre le besoin d'une chronologie
C'est ça.
hyper rapide du jeu versus une chronologie qui se passe sur des millénaires, c'est vraiment des millénaires dans la réalité. Donc de la première à la troisième, je dirais non, a priori, mais j'aimerais, mais encore une fois,
Oui, bon, on
et
s'attend
non
bien à ce que
dans un
tu. Voilà.
espace aussi restreint, dans un espace
D'accord, ouais.
géographique aussi restreint. Si on part sur la Terre, eh ben oui, oui. Parce que quand, disons, il y a 7000 ans, 7 à 8000 ans avant le présent, lorsque la néolithisation se produit en Europe, il y a encore des chasseurs-cueilleurs mésolithiques en Europe du Nord qui persisteront jusqu'à très très tard. Hein. Et au même moment, 7000 ans sur le continent américain, et ben là, on est carrément dans des périodes paléolithiques. Alors, si c'est un peu je dirais pas le problème, mais c'est un peu ce que le jeu a regroupé dans un espace
Aussi
hyper
petit, ouais.
géographique hyper restreint. Donc maintenant, le fait de se rencontrer, eh ben oui, la deuxième et la troisième, il y a eu une rencontre. Est-ce qu'elle a été violente? Ben ça, c'est une bonne question. Mais il y a quand même des traces archéologiques, et là, du coup, anthropologiques dans le sens français, franco-français du terme, qui disent oui,
D'accord.
des traces de violence entre certains groupes qui apparaissent dans le registre archéologique et anthropologique. Donc voilà, jusqu'où c'est en fait à quelle fréquence et sur quelle étendue c'était le cas, ben ça c'est encore des questions qui demeurent à répondre. Mais bon, un jour, on y arrivera peut-être.
Sait-on jamais. Mais justement, parce que je me disais, le jeu, alors pour ceux qui connaissent pas encore une fois, est très accentué sur la survie quand même. Et effectivement, c'est une époque assez géniale pour ça, enfin, en tout cas dans le jeu, où on a l'impression que dès qu'on sort du camp, on risque de se faire bouffer, trucider, mourir de faim, de soif, de je sais pas quoi. Et je me dis, mais dans un environnement aussi hostile que ça, on est tellement occupé à la survie qu'on n'a pas le temps pour une guerre, parce que une guerre,
Voilà.
économiquement, c'est très cher une guerre. Ça l'est aujourd'hui, ça l'était peut-être encore plus à l'époque.
Tout à fait. Ça nécessite des ressources, en fait, énormément de ressources. Il faut être en mesure de dédier une certaine partie de la population, de la retirer des activités productives, au niveau de la survie. Et justement, les guerres... Quand on y pense d'un point de vue anthropologique ou même sociologique, eh ben, il fallait justement qu'il y ait une certaine hiérarchie sociale, une certaine division des ressources à l'intérieur d'un groupe donné, pour pouvoir permettre justement la libération de certaines forces actives et en fait pour les dédier au final justement à des activités qui sont des activités de violence au final. Lorsqu'on regarde, il y a des penchants surtout très récents en Amérique où on a des groupes horticulteurs pastoralistes. Et eux, les guerres, en fait, c'était soit des guerres de capture pour prendre des personnes ou des guerres de vengeance, en fait. Mais c'était plutôt rare, en fait, des guerres de vengeance. Donc c'était beaucoup plus au niveau de la capture de biens ou de personnes. Et c'est souvent lorsqu'on a en fait des stress et en fait un stress qui est imposé sur la population. Donc voilà, est-ce que c'était le cas il y a 7000 ans en Europe? Ben c'est des questions qui demeurent ouvertes, quoi.
Ouais, c'est aussi très intéressant toutes ces questions-là. Parce que du coup, tu dis on le saura peut-être un jour, mais ça veut dire que, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont encore en recherche de vestiges justement, et que plus on cherche, plus on a le risque de trouver
Oui, bah, c'est des
bêtement, quoi.
recherches de vestiges et aussi c'est l'application de nouvelles méthodes. Donc, il faut comprendre que les méthodes, par exemple, le séquençage de l'ADN ancien, ça se fait depuis une décennie maintenant, au niveau archéologique, je veux dire. Voilà, il faudra comprendre d'une part qui étaient ces gens, en fait, autant ceux qui sont décédés, quels étaient leur mode de vie, où étaient-ils situés, à quelle période exactement. Donc, on a aussi un travail au niveau de la résolution chronologique qui demeure à faire. D'essayer de comprendre justement, bah, est-ce que c'est un cas isolé ou c'est un cas qui s'explique par des stress environnementaux, par des pressions plutôt démographiques dans un territoire donné. Voilà, c'est des questions qui restent à répondre et au final, bah, ça nous fait une perspective une sécurité d'emploi pour des décennies à venir, selon
Eh
moi.
bah, tant mieux, écoute, peut-être pour Far Cry 19, tu seras rappelé, je sais pas.
Il faudra repenser les scénarios, par contre,
Oui, bon, bah, écoute, ça se
si on
négocie,
veut
ça
se
se négocie.
renouveler, quoi.
Ah ouais, voilà, exactement. Bon, les Far Cry se ressemblent plus ou moins, mais c'est vrai que c'est toujours d'être justement mis dans un environnement complètement différent qui est, je pense, plus agréable que le reste. Mais après, bon, c'est mon côté joueur. Chacun joue son jeu différemment, on va dire. D'ailleurs, tu parlais avant justement qu'il fallait un certain groupe, d'un certain niveau, etc., pour pouvoir faire la guerre. Mais là, dans le jeu, en l'occurrence, on a des groupes, des fois au début, qui sont d'une dizaine de personnes. Et je me disais, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Parce qu'à 10, ça semble très compliqué de survivre, et tu te dis s'il suffit qu'il y en a deux qui se fassent bouffer par un lion pour que tous les autres meurent. Enfin voilà, comme ça se passe dans les trois
Ben
petits
voilà,
groupes,
c'est
quoi.
l'aspect jeu. Ça, c'est
Ça, c'est l'aspect jeu
exactement
pour
l'aspect
commencer.
jeu. Voilà, c'est à 10, je vois mal Étant donné ce qui est nécessaire, bon, on fait aussi de l'archéologie expérimentale pour voir comment reproduire les outils. Et bon, tout ce qui est nécessaire pour produire des outils pour la chasse, c'est-à-dire trouver les plantes, le bois nécessaire pour l'emmanchement, les plantes pour
Expérimenter,
la
j'imagine.
résine, expérimenter. Par petits groupes, je vois mal comment ils auraient pu en fait dédier une certaine partie de leur temps pour des combats violents. Si je puis me permettre en fait une comparaison avec le paléolithique, on a l'exemple des Néandertaliens en fait qui vivaient surtout par petits groupes. On a l'impression, étant donné la nature des vestiges, je passe un peu les détails. Mais en fait, la violence ne semble pas avoir été une préoccupation majeure dans leur mode de vie, violence entre groupes, je veux dire. Et c'est tout à fait compréhensible. Si il y a deux personnes qui doivent aller chercher de la matière, de la pierre, en fait, des matières lithiques pour faire la pierre, ensuite d'autres qui sont dédiés à la chasse, d'autres qui sont qui restent au camp pour maintenir le feu, faire les poseries pour les vêtements,
La
faire
tannerie.
la tannerie, voilà, faire, disons, la boucherie et la conservation de la viande, faire la cueillette d'éléments végétaux pour, en fait, pour se sustenter, pour justement, pour prendre soin des blessés. Voilà, c'est tellement d'activités qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie humaine. Voilà, je vois mal comment on aurait pu dédier 10 personnes pour aller faire la guerre à la peuplade qui vit à 50 km. Donc,
Ne serait-ce que faire 50 km dans une nature qui est un petit peu hard. Alors, je sais pas si c'était hard au point que ça. Hein, je sais pas, ça m'étonne qu'il y avait un lion à dents de sabre tous les 2 mètres, mais quand même une expédition de
tous les
50.
2 mètres.
Mais quand même une expédition de 50 km, ça devait pas être si simple que ça en
Tout
réalité.
à fait, tout à fait, c'est
Parce que
tout à
justement, il
fait
faut des
juste.
ressources parce qu'on n'aura pas forcément de quoi manger et boire sur le chemin, on ne sait pas quand on va revenir, etc. C'est très complexe en réalité.
Ah, il faut se sustenter, il faut se protéger des prédateurs. Il y a des prédateurs, il faut en être conscient. Il peut y avoir aussi des rencontres fortuites. Par exemple, on tombe sur une ressource qu'on a rarement accès, à laquelle on a rarement accès. Et ben, on va s'arrêter et prendre cette ressource-là. Voilà, et les 50 km seront plutôt longs à faire, quoi. Ça se fait pas en 3 heures. Ça va se faire sur une période de quelques jours, selon moi.
Il n'y avait pas de déplacement rapide à l'époque comme sur le jeu. Bon, c'est vrai que c'est vrai qu'après, bon, dans un jeu, comme tu dis, il y a des contraintes. Si on devait chaque fois passer 3 heures à jouer entre 2 points, ce serait très compliqué. Par
Tout
contre,
à
c'est
fait.
vrai que le fait de pouvoir justement pendant peut-être 3 4 heures essayer de jouer, on va dire, sans certaines facilités que le jeu offre justement pour qu'il soit quand même sympa et fun à jouer et qu'on arrive au bout, on se rend compte que justement c'était pas si évident que ça. Et en même temps, je trouvais très intéressant de voir, alors c'est peut-être la construction du jeu comme elle est faite, mais que je sais pas, on a souvent l'impression que c'était des sauvages, bêtes et méchants avec juste une massue, et puis on se rend compte qu'en fait, ben, c'est pas possible, quoi. Enfin, peut-être qu'un jour ça a été comme ça, voilà, mais que en réalité, il y avait un paquet de choses. Et que technologiquement, c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'iPhone, mais c'était pas non plus des espèces de débiles sauvages, quoi, en réalité. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a des gens qui les étudient pendant des années. S'ils étaient juste un mec avec une massue, vous auriez fait le tour depuis longtemps. Enfin, je sais pas.
Tu as mis le doigt exactement sur le cliché que je crois tous la communauté scientifique anthropologique ou préhistorienne essaie de démolir. En fait, c'est justement un cliché qui nous provient du début, en fait, fin du 18e, fin, pardon, oui, fin du 19e, début du 20e. Par exemple, Marcelin Boule, qui caractérise le Néandertal comme étant une brute sanguinaire avec le massue. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on essaie justement d'évacuer de l'imaginaire. Pour ça, je t'avoue qu'on doit faire chapeau Ubisoft pour avoir mis un peu cette partie-là de l'avant, parce que justement, ça prenait des connaissances et des compétences qui sont énormes et très vastes. Tu disais, ils n'avaient pas d'iPhone. Justement, et pour en revenir un peu au début de notre discussion, tu parlais de réalité virtuelle. On nous remet dans cette situation-là, sans nous donner un manuel d'instruction, même en réalité virtuelle, on ne dure pas 10 minutes, je crois, même pas 15 minutes. C'est des connaissances auxquelles on n'a pas accès et justement, ça nécessite un regard scientifique et aussi une poursuite des recherches pour pouvoir mieux comprendre justement la complexité de ces modes de vie et la richesse justement qu'elle nous donne en fait sur ce type de mode de vie en fait. Oui.
Ouais, moi je trouve ça assez fou. Et d'ailleurs, alors je suis tombé sur une discussion très bizarre, comme il peut y avoir dans les forums de jeux vidéo, tu sais, où il y avait une discussion où, sauf erreur, il y a des femmes qui chassent et qui font la guerre dans le jeu. Et alors bien sûr, on va pas. Il y a des joueurs qui sont très jeunes et pas forcément des plus éclairés sur la question féministe, on va dire. Mais bon, on va dire qu'ils sont jeunes et cons. Mais c'est vrai que c'est aussi une question intéressante, oui, parce que les gars disaient oui. Alors en fait, il y a des femmes qui chassent parce qu'il y a un lobby féministe aux États-Unis qui a poussé Ubisoft à mettre des femmes chassées. Ouais, c'est. Enfin,
Faux.
ouais.
Faux.
Non
Alors
mais.
ça a été une discussion qu'on a eue.
Ah ben ça du coup ça m'intéresse parce que moi pour le coup ça m'est passé enfin quand j'ai vu le jeu je m'y suis pas attaché tu vois mais visiblement il y a des gens qui s'y sont attachés donc ça vaut la peine d'en parler
Bah oui, c'est tout à fait faux en fait. Et justement, quand on reprend l'idée de petit groupe, en fait, dans un petit groupe, on ne peut pas avoir une division sexuelle des tâches qui est aussi claire et normée que celle à laquelle on s'attend actuellement. C'est-à-dire, les femmes prennent soin des bébés, font la bouffe et attendent que les hommes reviennent de la chasse. Dans les justement les que ce soit récit ou visionnement, en fait, pas visionnement, mais les études qui ont été faites avec les peuplades qui utilisent des moyens plutôt traditionnels, et on se rend compte qu'une femme est capable de faire exactement les mêmes tâches qu'un homme. Et elle fait exactement les mêmes tâches qu'un homme. Donc pourquoi devrait-on stigmatiser les femmes dans un rôle très particulier qui correspond au final à un idéal passé en fait de justement une division sexuelle des tâches et qui est contestée même aujourd'hui et qui doit continuer d'être contestée. Donc on n'est pas pour justement lancer ce cliché sur les populations passées, surtout là où tous les membres du groupe doivent en fait sont nécessaires et doivent jusqu'à un certain degré être interchangeables. Donc voilà, ça a été une discussion qu'on a eue et qui a été quand même assez intéressante avec Ubisoft.
Ah ben c'est cool qu'ils aient pris cette décision en tout cas, parce que mais c'est vrai qu'en même temps, en lisant la discussion, il y en a un qui disait, alors vraiment innocemment, comme le dit un enfant, je suppose, il dit oui, mais à l'école, nous, dans nos livres, il y a l'homme des cavernes avec sa massue qui va tuer le mammouth, et il y a la femme qui va faire la cueillette. Et c'est vrai que moi, je me rappelle mes vieux bouquins quand j'étais à l'école, c'était vraiment ça aussi. Alors je sais pas du coup, vu que tu dis que vous êtes. Enfin, il y a les anthropologues justement qui essayent de changer cette vision un peu non seulement sur cette question-là, mais sur toute l'imagerie qu'on a de cet homme des cavernes. Et du coup, c'est fascinant en fait.
C'est que c'est pas aussi clairement séparé, disons. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu plus complexe que ça. La tendance générale, oui, la femme, parce qu'elle a aussi des impératifs reproductifs, elle doit prendre soin de sa progéniture, mais en même temps, prendre soin de sa progéniture, on pourrait en discuter longuement. Hein. Il y a aussi toute la ménopause qui, en fait, une théorie propose que la ménopause a favorisé justement En fait, la transformation du rôle social de la femme mature ou en âge qui avait dépassé l'âge d'avoir des enfants pour justement s'occuper de la progéniture de ses filles et de ses sœurs. Hein. Ça, c'est des théories évolutionnistes qui se trouvent confirmées ou en fait supportées par justement les modes de vie des peuplades traditionnelles. Alors, du coup, c'est un peu plus complexe, mais des femmes qui participent à des battues pour justement diriger le gibier vers un endroit, ça c'est documenté, mais en vois-tu, en voilà. Des hommes qui font la cueillette, alors oui, ils partent à la chasse, mais s'ils voient du miel, une ruche de miel, et qu'ils en ont besoin, ils la prendront. S'ils voient des
logique,
baies,
ouais.
des noix, ils les prendront. Même chose, une femme, rien ne l'empêche de chasser des gibiers plus petits, de faire la pêche. Et puis, voilà, dépendamment des moyens technologiques, je connais des femmes, en fait, qui sont excellentes chasseuses. Et puis,
oh, ça fait aucun doute,
elles pourraient battre à plate couture plusieurs hommes. Et même
surtout
la majorité d'entre eux.
Surtout si on maintient qu'à l'époque, ça devait être plus habituel, je suppose, d'apprendre à chasser ou à se défendre qu'aujourd'hui, en effet, où...
Voilà.
Ah oui, où on le fait moins, quoi.
Exactement.
Enfin, peut-être qu'au Canada, t'as été chasser l'orignal, je ne sais pas.
Si c'était nécessaire à notre survie, homme ou femme,
on le réapprendrait.
On le ferait. Donc ça c'est pas je crois que il y a pas de biologiquement les genres ne sont pas programmés ou déterminés
à faire de la cueillette ou de la chasse.
Exactement.
Ben c'est vrai que ça paraît bête et je pense que la majorité des joueurs ont joué au jeu, ça leur est passé devant les yeux sans y réfléchir et c'était la même chose pour moi en fait, mais du coup c'est une question super intéressante quoi. Et du coup ben joli Ubisoft, bien joué. Alors, tu m'avais dit une quarantaine de minutes, donc j'ai juste une dernière question à te poser.
Allez, vas-y.
Est-ce que tu penses que c'est bien, alors bon, puisque tu l'as fait, je suppose que oui, mais que les anthropologues, justement, puissent être mis à... Enfin, être consultants, justement, sur ce type de jeu, on pourrait même imaginer des types de jeux beaucoup plus récents, où c'est vrai que maintenant, avec l'amélioration de l'intelligence artificielle, etc., et des ordinateurs, on peut avoir des villes qui fonctionnent entièrement, finalement, et je ne dis pas que les anthropologues sont les seuls à savoir comment fonctionne une ville, mais au point de vue des interactions sociales, c'est quand même ce qu'ils étudient, donc ils seraient des experts tout à fait bien choisis pour construire des cités, etc., qui soient récentes ou non encore, mais qui soient réelles, justement, parce que les interactions sociales qui sont autour de nous semblent réelles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça va être plus souvent? Est-ce que c'est quelque chose que tu espères? Est-ce que...
Bah, c'est sûr que c'est quelque chose que j'espère, en fait. Je crois que c'est un filon qui est à exploiter. Et puis ça, c'est pas seulement au niveau des jeux vidéo, mais c'est dans tous les domaines décisionnels. Je crois, et là, je parlerai pas seulement pour les anthropologues, je parlerai aussi pour les sociologues, qui sont souvent appelés, mais disons, on va se contenter des anthropologues. Je crois que oui, ils ont en fait une perspective qui peut enrichir le processus décisionnel, que ce soit même dans le... En fait, ça se voit aux États-Unis, par exemple, dans le marketing. Ça se
énorme.
Voit aussi au niveau de l'armée américaine. Ça s'est beaucoup vu, comment interagir avec... Alors, c'est des cas où l'éthique professionnelle doit être...
Ce serait une discussion super intéressante, parce
voilà,
que je pense qu'il y a énormément d'aspects là-dessus, mais c'est passionnant.
C'est passionnant, mais je crois en fait que l'on parle de planification urbanistique, de problèmes sociaux qui nécessitent une compréhension globale en fait du fonctionnement de l'humain en société. Je crois que les anthropologues peuvent être des joueurs et des interlocuteurs et des participants justement dans ce type de discussion. Je ne dis pas qu'on a la réponse à tout, loin de là, mais je crois qu'on peut apporter des réponses,
des éléments intéressants,
et des façons de voir, des façons d'analyser justement les situations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent en fait enrichir la réflexion. Donc oui, tout à fait.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'on pourrait en discuter pendant des heures encore, mais je trouve très intéressant la façon dont travaillent les anthropologues américains, en l'occurrence, si on suit sur Reddit, où il y a même un Slack qui regroupe beaucoup d'anthropologues américains, et de voir la différence avec la France, en l'occurrence. Je ne sais pas à quel niveau, si c'est plutôt tiré vers la France ou vers les États-Unis, Montréal ou le Québec, parce que c'est toujours un peu entre deux.
Un peu entre les deux. Et puis c'est un peu notre marque de commerce aussi. C'est oui. Justement parce qu'on a deux influences, autant les influences francophones qu'anglo-saxonnes, on est capable de jouer un peu plus avec sur différents tableaux. Mais au final, c'est que pour enrichir une réflexion. On ne peut pas prétendre avoir la solution miracle. Je crois que c'est...
Non, jamais. Mais des fois, un expert de plus, c'est pas si mal que ça.
Tout à fait.
Et du coup, je vais te laisser, mais c'était super intéressant. Merci d'avoir participé à Anthro Story. Et puis, on espère un jour ou l'autre, pourquoi pas, te retrouver sur d'autres épisodes pour parler d'autres choses. Du coup, pour ceux qui s'intéressent vraiment au jeu et à l'environnement du jeu, est-ce que tu aurais un livre ou un contenu à nous conseiller si on veut en apprendre plus sur les. Alors, je sais que c'est hyper compliqué, parce que du coup, tu vas me conseiller. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on pose la question à un expert, il nous conseille 253 livres, et on est là, on dit non, mais c'est pas possible, donne-moi un, au moins un qui me donne le goût de lire les autres, pourquoi pas, quoi.
Oh là,
un ou deux, disons. Pas.
C'est qu'il y en a beaucoup, il faut faire un choix.
Ah oui.
Mince, c'est tellement difficile. Écoute, il faudrait que je te renvoie ça par courriel.
Tu vas me renvoyer ça comme courriel et on va ajouter ça. C'est la question piège.
J'ai beaucoup de titres anglais par contre.
Oui, bon, mais ça.
C'est plutôt des titres français, j'imagine.
Moi je suis persuadé que dans le monde dans lequel on vit, et notamment le monde d'Internet, ne pas savoir l'anglais est un vrai handicap. Donc. Et surtout quand on s'approche des sciences, que ce soit la physique ou l'anthropologie, c'est vrai que c'est complètement fou ce qui sort en anglais, et ce qui sort en français c'est un peu moins fou, même s'il y a des bons trucs, mais c'est vrai que y a des best-sellers du côté américain, et du côté français c'est des petites maisons d'édition qui sortent des très petits livres où on sait même pas qu'ils existent, même si ça les empêche pas d'être intéressants. Mais du coup,
écoute,
en anglais, tu peux me donner le prochain.
Je fais anglais et français, deux
exactement.
Chaque, et puis tu pourras y ajouter sur le podcast.
Exactement, c'est parfait. En tout cas, merci vraiment d'avoir pris du temps pour moi, et puis on souhaite bonne chance dans tes recherches, et j'espère que tu trouveras une lance taillée qui redéfinira le paléolithique pour les 10 000 ans à venir, ça serait super pour
moi,
toi.
Je veux pas que ce soit les 10 000 ans à venir, hein, maximum 10 ans.
Bon, c'est déjà pas mal.
Allez.
À la prochaine, merci beaucoup.
À la prochaine, au revoir.
Merci d'avoir écouté cette interview, j'espère qu'il vous a bien plu. Les liens des livres qu'il a conseillés, qu'il m'a envoyés ensuite par mail, sont à trouver sur la page anthrostory.com, ce sera beaucoup plus facile à trouver. Pour ceux que seule l'anthropologie intéresse, ou l'interview, ou les jeux vidéo, je vous conseille d'arrêter l'écoute tout de suite et d'aller écouter quelque chose de beaucoup plus intéressant, voire d'aller écouter, je sais pas, le dernier épisode de Game of Thrones, je sais pas s'il est sorti à l'heure où vous écoutez ça, mais ça peut être un bon truc en alternative. Pour ceux que ça intéresse maintenant, je vous l'avais dit, on a changé de nom de Anthro Podcast à Anthro Story. Et peut-être, j'imagine, qu'il y a 2-3 auditeurs qui se demandent mais pourquoi est-ce que ça change de nom ? D'autant plus qu'on a changé de nom, c'est plutôt été une fusion, mais entre Voyagecast et Anthro Podcast. Alors, la réponse super simple, c'est que le podcast, tout le monde s'en fout et personne comprend ce que c'est. Quand j'ai commencé le podcast il y a 4 ans à peu près, il y avait une sorte de pensée qui se disait que ça allait se développer, ça allait devenir grand, etc. Force est de constater qu'après 4 ans, ça n'a pas du tout décollé. Je parle du podcast en général, pas de Voyagecast, entre podcasts, entre story, qui a de plus en plus d'auditeurs, donc c'est bien. Mais le podcast en général, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et le problème que ça fait, c'est que on n'est pas seulement sur Internet, et parfois on doit aller trouver des gens, que ce soit pour aller faire des interviews, pour aller faire éventuellement des choses dans des musées, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que vous devriez peut-être déjà entendre cette année, mais c'est pas certain parce que c'est compliqué à organiser. Ou alors d'aller, comme on l'a fait au Grand Bivouac, d'aller à la rencontre des gens en ayant un stand où les gens peuvent écouter ce qu'on fait et regarder ce qu'on fait. Et le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vous faites, et vous dites « ben, salut, je suis Jonathan et je fais anthropodcast », les gens posent rarement des questions sur le mot « anthro », peut-être parce qu'ils savent que ça veut dire « l'homme », et surtout parce qu'il y a un mot « podcast » qu'ils ont déjà entendu, qu'il y a quelque part dans leur cerveau parce qu'ils ont écouté la radio et une fois c'est dit « vous pouvez télécharger nos épisodes en podcast », mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc du coup, vous avez des gens devant vous qui vous disent « ben alors, comment, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est de la radio? Ah ben non, c'est de la radio sur Internet. Ah oui, mais alors on peut l'écouter comment? Et puis, ah ben, vous pouvez me montrer sur mon téléphone comment est-ce que ça marche? Oh, et puis, ah oui, mais j'ai pas de data, vous comprenez? Ah oui, ah, mon téléphone, il est trop vieux, vous dites? Ah oui, d'accord. Mais alors, comment est-ce que je fais sur l'ordinateur? Je cherche ce que vous avez dit? Ah ben non, c'est pas du tout la même chose, madame. Monsieur, hein, la même chose. Et du coup, en fait, plutôt que d'expliquer ce que c'est l'anthropologie, d'expliquer ce qu'on fait dans nos épisodes, dans nos émissions, je me mets à chaque fois à expliquer ce que c'est le podcast. Or, je m'en fous que les gens savent ce que c'est le podcast ou pas. Je veux juste que si les gens trouvent intéressant ce qu'on fait, ils puissent y accéder le plus facilement possible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on est sur YouTube, où pour le coup, même la grand-mère, il y a de grandes choses qu'elle vous dit, qu'elle vous dit « Ah oui, mais YouTube, oui, alors je sais ce que c'est, des fois j'y vais pour écouter de la musique. » C'est quelque chose qui est devenu extrêmement mainstream en très très peu de temps, contrairement au podcast. Et à vous dire vraiment la vérité de mon cœur, je pense que le podcast ne marchera jamais, tout simplement à cause d'une raison hyper simple, c'est que, et ça a été discuté encore dernièrement beaucoup, la radio perd beaucoup d'éditeurs, notamment aux États-Unis, alors pas forcément dans tous les pays, mais aux États-Unis par exemple, et il y a un shift qui est en train de se faire, c'est-à-dire que ce qui était accessible pendant longtemps à la radio, sur les ondes hertziennes, ça commence à plus avoir beaucoup de sens. Dans les voitures, il y a Internet, sur nos téléphones, il y a Internet, souvent on est limité, donc les gens écoutent de moins en moins la radio. S'ils veulent écouter de la musique, ils vont aller sur Spotify, et s'ils veulent avoir du contenu un peu plus intelligent, ou parler, disons, ils vont aller sur d'autres choses que Spotify, ils vont peut-être même aller directement sur YouTube depuis leur voiture, puisque c'est accessible, depuis leur téléphone, ou ils vont chercher des sites qui vont délivrer des contenus audio et vidéo, qui sont souvent des sites de vieux médias comme, comme aux États-Unis par exemple, NPR par exemple, vous pouvez avoir quasiment tout le contenu sur votre téléphone, dans votre voiture, mais du coup, il n'y a pas de notion de podcast dedans en fait. Dans le fond, c'est du podcast, dans le sens où il y a un flux de syndication, il y a un fichier audio qui est hébergé quelque part, on le stream, on peut le télécharger, mais c'est totalement transparent. Du coup, la notion de technologie derrière n'a plus aucune importance. Ce que les gens veulent, c'est « ben, je veux écouter un truc sur l'anthropologie, sur l'histoire, sur la science, sur le sport, n'importe quoi. Je veux un endroit où je peux chercher ça, et où je peux cliquer, et où ça marche. » Mais du coup, la notion de podcast n'a plus aucune importance. Ça fait déjà un moment, donc depuis le grand bivouac, que je me dis ça et que je me dis faudrait qu'on change de nom, mais je sais pas quand faire, quoi faire, quel nom prendre, etc. Et j'ai écouté un podcast que je vous encourage extrêmement, je sais pas si c'est vraiment français, que je vous encourage en tout cas beaucoup à écouter, qui s'appelle Startup. Alors c'est en anglais, parce que j'écoute et je lis énormément de choses en anglais, je vous encourage à le faire aussi, parce que l'anglais ça reste quand même un endroit où on a beaucoup plus de contenu, et parfois plus pro, il faut l'avouer, notamment au niveau des podcasts. Et en l'occurrence, c'est un podcast qui s'appelle Startup, S-T-A-R-T-U-P, qui est fait par Alex Bloomberg, qui a travaillé notamment avec Ira Glass, qui est le gars qui se cache derrière The American Life. Alors, si vous n'avez jamais écouté, vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais, allez écouter, c'est du storytelling. C'est des histoires qui sont racontées, qui mêlent l'interview et la narration du narrateur qui est présent dans son histoire. C'est super intéressant, ça parle de science, ça parle de sentiments, ça parle d'énormément de choses différentes. C'est quasiment du pur génie, c'est probablement la meilleure émission radio qui n'a jamais été faite, c'est probablement un des podcasts les plus rentables qui existent. C'est d'ailleurs pas vraiment un secret de savoir que c'est de ces équipes-là qu'a découlé Serial, qui est donc le succès incontesté et incontestable au niveau du podcast actuel, en anglais toujours, et je peux vous rassurer que leurs chiffres de téléchargement n'ont rien à voir avec nos chiffres, et leurs chiffres de vente non plus d'ailleurs. Je pourrais en parler pendant des heures et c'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, ce gars-là, donc Alex Bloomberg, s'est dit « Ben tiens, je vais essayer de faire mon propre réseau de podcasts, je vais essayer de lancer moi-même ma propre entreprise », ce qu'il a pu faire. Et puis il faut dire aussi qu'il a travaillé avec des gens extrêmement bons et qu'il est loin d'être mauvais. Donc il avait la possibilité de faire ça. Et puis... il avait comme nom, je crois que c'était The American Podcast Unity ou Global American Podcast ou je sais plus, un truc comme ça. Et comme il enregistre ce qu'il fait, c'est-à-dire les investisseurs qu'il a été voir avec ses partenaires, etc., ce qui fait qu'on peut suivre au fil des épisodes la construction de son entreprise. Et autant vous dire que si ça dure des épisodes, c'est qu'elle a été extrêmement loin tout de même. C'est vraiment, enfin, il y a beaucoup de travail qui a été abattu. Et donc du coup il présente son nom avec podcast dedans, et le gars lui dit mais pourquoi tu mets le nom d'une technologie dans ton nom de podcast, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que ça n'a aucun sens, tout le monde s'en fout, encore une fois. Alors c'est juste pour dire que j'avais raison de penser ça avant. Bref, du coup je me suis dit, il faut qu'on élimine absolument le mot podcast, et qu'on évite d'avoir un cast à la fin, ou etc., qu'on évite d'avoir un nom qui soit trop lié à une technologie. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que Alex Bloomberg a fini par prendre un nom qui n'a rien à voir du tout avec rien, qui s'appelle Gimlet Media. Media qui est donc extrêmement explicite pour tout le monde, hein. Media, voilà, c'est quelqu'un qui produit du contenu, et du coup on s'en fout que ce soit de l'audio, que ce soit d'écrit ou que ce soit de la vidéo, c'est du média en fait. Ce qui lui permet aussi d'avoir une entreprise qui peut se permettre de faire des choses très différentes. C'est plutôt excellent parce que entre all stories, ça reste... On est sur YouTube aussi, on fait de la vidéo, on se casse un petit peu de la tête à le faire. Il faut avouer que c'est pas super génial. Mais quand même, il y a à peu près la moitié des gens qui écoutent entre all stories qui sont en fait des gens qui les regardent sur YouTube au niveau des chiffres. Et autant vous dire que quand il y a une vidéo qui marche vraiment très bien, ça peut être facilement 10 fois plus de gens qui l'écoutent sur YouTube, en l'occurrence pour la vidéo qui a marché le mieux, hein, c'est quoi l'anthropologie, c'est des chiffres qui sont 10, 12 fois supérieurs à celui du podcast, parce que c'est un petit peu le pouvoir de YouTube justement. Quelque chose qui marche a tendance à continuer à marcher, alors qu'en podcast, quelque chose qui marche pas ne marche tout simplement pas. Bref, en tout cas, il nous fait aller un autre nom, et du coup, on a pas mal... fait de brainstorming, je remercie ceux à qui j'ai envoyé des tweets en disant « Hey, qu'est-ce que tu penses de ce nom ?» etc. Et on a beaucoup, alors il y avait je crois... Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de noms qui étaient déjà pris pour d'autres trucs et qui n'étaient pas, achetables parce qu'on n'a pas d'argent. Il y a notamment un nom que j'aimais beaucoup, c'était Anthromedia, qui du coup reprenait un petit peu de Gimlet Media, mais qui était génial parce que... ça fait un petit peu Andromède, etc. Mais c'était déjà pris. Beaucoup de bons noms sont déjà pris. On a eu des noms plus ou moins drôles, etc. Et il y avait deux choses principales qu'il fallait garder. Enfin, deux ou trois, je crois. La première, c'était qu'il fallait que ça commence par un A. Puisque oui, stratégiquement, c'est très intéressant d'avoir un produit qui commence par A. Tout simplement parce que dans toutes les listes à ordre alphabétique, ça va arriver tout en haut. Ce qui était un des défauts de VoyageCast, puisque V, c'est tout en bas. Ce qui fait que s'il n'y a pas d'intelligence derrière... derrière un site internet qui montrerait les contenus, et votre contenu est toujours en dernier, et on sait très bien que les internautes ne vont jamais jusqu'au bout de la page. Donc c'est très bien d'être dans les A, un petit truc si jamais vous pensez à faire votre propre podcast, etc. Tapez dans les A, etc. En tout cas, c'est sûr, dans le premier tiers de l'alphabet. Ça, c'était nécessaire. Deuxièmement, il fallait pas qu'il y ait un mot ou une connotation française à l'intérieur, puisque... là encore, j'espère que ça sera dans les prochains mois, mais j'ai déjà des contacts, donc ça va se faire. Il y aura des interviews ou des parties d'interviews qui seront en anglais. Pourquoi ? Parce que l'anthropologie, même s'il y a encore beaucoup de gens qui discutent si c'est une science ou pas, reste dans son aspect scientifique extrêmement publié en anglais. Il y a énormément plus de choses qui sont faites en anglais et qui malheureusement ne sont pas nécessairement traduites en français. Même des best-sellers, alors au niveau de l'anthropologie et des sciences sociales, hein, ne sont pas forcément traduits en français ou le sont vraiment, vraiment, vraiment très tardivement. Certains sont traduits en français, mais uniquement en format livre. Et moi, j'ai un Kindle, c'est beaucoup plus pratique pour étudier, donc ça m'embête un petit peu. Et puis enfin, comme la plupart des bouquins que je lis et la plupart des articles sont en anglais. Et si une fois j'ai envie d'interviewer la personne, l'écrivain qui a fait le livre ou l'équipe de recherche qui a produit un travail, eh bien il y a de fortes chances que ce soit en anglais. Alors j'ai très peu confiance en mes capacités en anglais, ce sera probablement pas vraiment écoutable au niveau de mes questions, mais étant donné que c'est des interviews, c'est plutôt ce que mes invités diront qui seront importants. Donc si ma phrase n'est pas parfaite ou si mon accent est horrible, il est horrible, ça ne va pas poser grand problème à l'écoute, ce qui fait qu'on peut avoir enrichir le podcast. Puis voilà, ben, la science se fait en anglais, Internet, il y a énormément de choses en anglais. On avait déjà dit, par exemple, que Wikipédia était très intéressant en anglais, il était quand même un petit peu moins en français. Donc voilà pourquoi on va aller en anglais, et voilà pourquoi il fallait un nom qui soit pas dérangeant s'il y avait un mot français dedans, parce que les Américains seraient dit, bon ben du coup ça va parler français. Il y avait la longueur aussi, et je crois qu'il y avait encore un autre truc qu'il fallait respecter. Enfin bref, ça c'était les critères, et j'ai fini par trouver Anthro Story. Et pourquoi Story ? Déjà, histoire, ça sonne très très mal, enfin ça sonne vraiment histoire en français, mais story, c'est aussi le storytelling, c'est-à-dire essayer de raconter une histoire plutôt qu'exposer des faits, ou voire même faire des interviews. Alors il y aura toujours des interviews, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester le format du storytelling ou quelque chose d'avoir un peu plus écrit, notamment parce que certaines choses qu'on veut expliquer, notamment si on va dans l'histoire de l'anthropologie par exemple, c'est très dur de le faire en interview et c'est beaucoup plus facile de l'écrire, donc ça va avec l'histoire. Et puis au final, Anthro Story, l'histoire de l'homme, ça va pas mal avec l'anthropologie. Enfin, globalement, la plupart des gens à qui on a posé la question, c'était « Ok, c'est pas mal ». Et puis aussi, ça fait relativement sérieux si une fois on a envie de... je sais pas, de publier quelque part ou d'être dans un musée, etc. Enfin, il y a beaucoup de si, mais voilà. Et pourquoi maintenant ? Notamment, pourquoi on n'a pas de jingle, etc., par exemple, parce qu'on n'a pas encore fait ça. Pourquoi on a changé de nom tout de suite ? C'est parce qu'on a écrit à beaucoup d'universités, la plupart des universités françaises, suisses, et on est en train d'écrire aux universités africaines et québécoises, pour dire qu'on existe, que si éventuellement il y a des anthropologues ou des professeurs, des instituteurs qui ont envie de bosser avec nous pour des épisodes ou qui ont envie de se servir de nos interviews dans les supports de cours, ce qui est déjà fait à l'heure actuelle par des anthropologues qui ont trouvé notre travail par hasard, eh ben on a envoyé un mail avec une petite plaquette en disant voilà, voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous pouvez trouver chez nous et si ça vous intéresse, etc. Et les premiers retours, ça date d'une semaine, hein, ce que je vous parle, sont vraiment excellent, donc on a, je pense, eu assez raison de le faire. Et pour éviter d'envoyer un truc avec un nom et puis de deux semaines plus tard avoir changé de nom, voire même deux trois mois plus tard, on s'est dit qu'il fallait changer, c'était pas une décision très démocratique, qu'il fallait, si on changeait, il fallait le changer maintenant, et c'est pour ça qu'on a changé maintenant. Pour Anthro Story, voilà, je crois pas que j'ai grand chose à dire de plus à ce sujet, si ce n'est si vous pensez à faire du podcast, même si vous vous dites pour l'instant je veux pas faire de vidéos, je veux pas aller dans des festivals, je veux pas aller dans des musées, je veux rien faire, je veux juste faire du podcast, ne mettez surtout pas le mot podcast dans votre podcast parce que c'est une très très mauvaise idée. Là j'ai vraiment rien à dire et c'est vraiment trop long, du coup on va se dire à dans deux semaines. Et dans deux semaines, si je pense pas qu'il y aura de modifications, il y aura le premier épisode tagué Voyage Cast d'Anthro Story. Oui, c'est une sorte d'inception de Voyage Cast d'Anthro Story. C'est tout simplement, on a enregistré, alors là, j'ai enregistré seul sur Pékin, et on a enregistré trois autres avec ma petite sœur qui m'a rejoint en voyage quand on était en Asie, entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. Et on a parlé de ces pays-là d'un point de vue pas du tout anthropologique, juste de deux voyageurs qui se posent des questions et qui racontent un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, avec un regard quand même très très critique sur les choses, puisqu'on voulait aborder la chose de cette façon-là, en fait. Et ils seront distillés entre des épisodes qui parleront vraiment d'anthropologie pure, pour parfois alléger un petit peu le format, parce que là, on sort quand même de quatre épisodes, c'est-à-dire à peu près deux mois, où on a parlé de que deviennent les SDF. Je pense que c'est très important de faire des épisodes comme ça, mais il reste qu'on en sort un petit peu découragé, un petit peu triste, un petit peu fatigué sur le monde qui nous entoure. Et des fois, de parler un petit peu d'ailleurs, d'exotisme, c'est pas mal non plus. On a le droit de temps en temps de prendre des petites vacances, même sur Anthro Story. Donc, à dans deux semaines. À ciao, bonsoir.